c'est vivant. Faut pas oublier, dès qu'on y est dedans, c'est comme si tu étais dans cette situation-là, un observateur, tu vois, intemporel qui observe quelque chose. Donc, tu peux collecter les informations de quelque chose qui est toujours tu vois, en mouvement. C'est pas un livre que tu ouvres poussiéreux et où tu lis, tu vois. C'est que tu es transporté dans cette expérience et je trouve ça extraordinaire, tu vois.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec joie pour un nouvel épisode interview dans lequel j'ai eu le plaisir d'interviewer Jean-Marie Muller, auteur, médium et conférencier. Jean-Marie va nous raconter son parcours, évidemment, mais va aussi nous parler d'un thème sur lequel je l'ai sollicité, et ce thème, c'est les archives ou les annales akashiques, ou autrement dit, la mémoire de l'univers. Je remercie très sincèrement Jean-Marie pour ce délicieux moment passé en sa compagnie, et comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous souhaite une très très belle écoute. Alors Jean-Marie, merci beaucoup, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment ravi et à la fois honoré de te recevoir. Voilà, je sens que ça va être un entretien passionnant. Donc merci encore. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux rapidement décrire un peu qui tu es et ton parcours?
Déjà, merci à toi, Xavier, de m'avoir invité. Je me sens privilégié d'être invité sur ton podcast. C'est toujours, je dis souvent aux gens, et puis les gens ils se disent, bah, tiens, c'est bizarre, c'est difficile de se présenter, parce que bien sûr, à part dire oui, je suis telle et telle chose, c'est chaque fois quelque chose qui est intime. Moi, je dirais que en ce moment, j'ai presque envie de dire, des fois, je suis vraiment, de plus en plus, j'aime être cet être humain avec toutes ces expériences. Voilà, donc un humain en chemin, debout. Et puis, bien sûr, on va dire, très tôt dans mon enfance, tout ce qui était relié, on va dire, à la spiritualité m'a tout de suite passionné. Voilà, je crois qu'après les premières bandes dessinées, j'ai lu les livres rouges à l'époque, il y avait L'Aube sans grand pain, Edgar Cayce. C'était ma lecture de tous les soirs à un moment donné. Mais c'est vrai que très, très tôt, j'ai eu beaucoup de contacts avec, comme on dit, l'au-delà ou les autres dimensions, avec certaines formes d'êtres qu'on appelle les guides ou les êtres de lumière. Donc, c'était très fort, mais pas comme quelque chose de particulier, puisque je suis convaincu que chacun d'entre nous a des souvenirs, on les a juste oubliés. Ça a juste duré un peu plus longtemps, je pense, très consciemment, voilà, où je faisais ces voyages. Et tout ça est resté vraiment très ancré, mais pas à nouveau comme quelque chose de particulier. C'est, pour l'enfant que j'étais, c'est comme, voilà, à un moment, on jouait au foot, un moment, et puis, le soir, quand j'allais me coucher, c'était la rencontre avec eux. Donc, j'estimais pas être ça différent du football, tu vois, comme une activité avec, par contre, qui me laissait un bien-être. Et ça, j'ai toujours ce souvenir. C'est que tout d'un coup, j'étais pressé à aller au lit. Ce qui est pas assez, à 6-7 ans, on n'a plus trop envie des fois d'aller au lit. Moi, j'étais pressé d'y aller. Et à chaque fois, un sentiment de cette bien-être qui s'installait. Et tout d'un coup, je voyais plus que des particules autour de moi. Donc, je voyais plus les meubles tels qu'ils étaient. Et une espèce de cercle comme ça, avec des visages, mais lumineux, d'accord, pas bien définis, mais je les voyais. Et je discutais avec. Et au départ, c'était un peu comme des amis. Et avec le temps, je voyais qu'ils commençaient déjà à m'enseigner des choses. Donc, ça a commencé un peu comme ça, je suis tombé dedans. Mais après, dans mon parcours, disons, il est tout ce qui est plus banal. J'ai fait beaucoup de métiers que je n'aimais pas du tout. Je trouvais pas ma place. L'alcool est venu très vite. Mes émotions que j'arrivais vraiment pas à apprivoiser, m'ont tout de suite posé problème. J'avais peur de tout. Bref, je suis d'abord bien descendu. Et puis à 17-18 ans, et là, j'ai dit, tiens, il faut que je me mette déjà dans le monde. Donc, ça a commencé très tôt. J'ai suivi des cours avec une médium, après dans des huiles essentielles. Bref, j'ai fait énormément de choses. J'ai suivi le bouddhisme pendant 5 ans. Après, j'ai rencontré de grands professeurs. Il y avait aussi ceux avec qui, je pense, j'ai le plus appris, parce qu'on a été le plus longtemps ensemble. C'était Stal et Joanne, tu vois. Et c'était incroyable parce qu'au fur et à mesure aussi, c'est comme si on s'étoffe. Donc, qui fait qu'à un moment donné, je savais très bien, à l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai dit, tiens, je me voyais parler devant les gens et transmettre. Ça, c'était sûr. Et puis aussi, un espèce de, réparateur d'humains. qu'on appellera ensuite thérapeute, mais c'était un peu dans ce sens-là. Et c'est vrai que j'ai résisté longtemps et puis il a fallu attendre l'âge de 40 ans, donc quand même, pour que je me dise maintenant, parce que juste avant, il y avait un côté de moi extrêmement suicidaire, puisque je buvais 8 litres d'alcool, je me droguais, bref, j'étais arrivé vraiment dans les profondeurs, parce qu'en somme, je refusais totalement ma vie. Voilà, c'était clair et net, je voulais pas tout ça, je voulais être tranquille, qu'on me foute la paix. Et en même temps, l'autre côté qui avait envie d'être vu, reconnu, et puis surtout que ben, j'avais envie quand même de suivre ma voie, ce que je ressentais depuis longtemps. Et là, du jour au lendemain, enfin, pendant des années, j'ai quand même bu et je me suis drogué passablement. Donc, du jour au lendemain, disons que ça a été très vite, au moment vraiment où j'avais décidé d'arrêter, je commençais à faire mes premières affiches, mes premières conférences, mes premiers stages, et c'était parti.
Tu disais que dès quasiment ton plus jeune âge, tu as reçu des enseignements. Ces enseignements, de quel type ils étaient et qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre, grosso modo?
Alors d'abord, il y avait des situations de vie, c'est que tout d'un coup j'arrivais de l'école, on peur, on pleure, et puis il me montrait. Alors à l'époque, j'arrivais pas à tout à comprendre, mais j'avais comme une image, en somme, de ce qui se passait en dessous que je n'avais pas vu tout de suite parce que j'ai toujours, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'entendais les pensées des gens, mais il y en avait plusieurs et de différentes natures. Et je donne l'exemple, tu sais, à l'école enfantine, à un moment donné, j'ai dit. Il y a un événement qui arrivait, comme j'étais plutôt bien dans le côté artistique, donc la maîtresse m'a fait une faveur, ce qui d'ailleurs n'est pas correct puisque ça va éveiller la jalousie. Et à un moment donné, la petite camarade à côté de moi me renverse la peinture sur mon truc à moi qui était plus beau. Donc ça l'a taché et tout. Et moi je fais, ah j'ai vu, t'étais jalouse et t'as fait ça. Et je reçois une claque de la maîtresse. Donc ça s'est mal terminé. Et puis là, c'est plus tard que je me suis rendu compte, j'ai dit, mais attends. En somme, tu as cru qu'elle a fait exprès parce que pour toi, la pensée qu'elle a eue, le geste qu'elle a eu, tu vois, c'était comme si elle l'avait fait consciemment. C'était pas le cas. Mais pour moi, c'était la même chose parce que je faisais pas trop la nuance. Et d'ailleurs, avec mon grand-père, une fois, j'ai reçu une claque comme ça aussi parce que j'ai dit, ah, j'ai vu que tu voulais aller au restaurant pour boire des verres parce que tu n'étais pas content à la messe. Enfin, tu vois, un truc. Et paf, devant tout le monde, parce que bien sûr, j'avais révélé un secret qu'il avait à l'intérieur. Donc, les guides étaient principalement axé sur des scénarios de vie et puis aussi très rapidement sur le fonctionnement de l'univers, comment il est agencé jusqu'à nous humains. Donc il y avait des trucs très pointus, c'est comme si il y avait plusieurs Jean-Marie, c'est que il y avait un Jean-Marie enfant et tout d'un coup il y avait un Jean-Marie que je connaissais moi, mais on aurait dit un scientifique, quelqu'un de très érudit pour son âge, tu vois. Ça correspondait pas à moi, mais c'était moi quand même. Et tout d'un coup, oui, sur comment l'univers était agencé, même les premiers trucs, tu vois, de la multidimensionnalité de l'être, enfin bref, c'était juste incroyable, tu vois. Mais je savais pas trop quoi en faire encore à l'époque. J'étais juste content. Tu vois, c'est comme si l'enfant était un observateur d'un érudit et puis après d'autres érudits qui sont les guides et qui avaient des choses mais incroyables. Et d'ailleurs. Il y a certaines choses que je peux découvrir que maintenant. C'est-à-dire, c'est des choses ont été déjà données, mais comme maintenant j'arrive, tu vois, tu arrives un peu à l'intérieur de toi, aux limites, tout d'un coup, il faut que ça s'écroule un peu pour laisser quelque chose de nouveau qui va, en somme, tu vois, qui va dire, bah, tiens, pendant longtemps, je parlais d'émotions négatives, maintenant, je dis non, en somme, il n'y a pas vraiment d'émotions négatives. D'ailleurs, même les pensées. Et ça m'a perturbé pendant des mois, hein. Mais je voyais, j'ai dit, tiens, t'as pu accueillir certaines choses et d'autres, il a fallu tout un cheminement pour dire, OK, est-ce que tu es prêt à voir aussi la réalité de cette manière-là? Et des fois, c'est bousculant. Tu dis, je peux pas dire ça, hein, les gens, ils vont me tomber dessus. Et puis, si t'as pas la preuve de ce que tu avances, et en plus, il donne des démonstrations à faire. C'est fou. Il donne des éléments pour étayer comme un scientifique, mais moderne, tu vois, où on explore, on reste pas coincé. Et je trouve ça génial et ça la ramène chaque fois à notre humanité aussi. Tu vois, de le relier avec nos blessures, notre mode de fonctionnement, même les histoires d'ailleurs d'espace et de temps dans lequel je suis en train d'écrire un chapitre du nouveau livre qui sortira encore après, où je me dis, oh, je vais m'éclater là, je vais, tu vois, moi, c'est plus ça, oh, j'adore, j'adore, quoi.
Eh bien, génial. Mais justement, on va, avec ton accord, puisqu'on a, on a décidé ça avant d'enregistrer l'épisode, creuser un sujet qui m'intéresse et que je n'ai pas vraiment encore creusé, qui sont les archives ou les annales akashiques. C'est la même chose, c'est juste deux dénominations différentes. Parce que j'aimerais bien avoir ton éclairage sur le fonctionnement, cette partie du fonctionnement du grand tout. Commençons simplement par demander qu'est-ce que, selon toi, sont les annales akashiques.
Non, c'est vraiment, je te remercie déjà d'avoir amené ce sujet parce que je l'aborde peu, d'accord. Je ne m'estime pas être du tout un spécialiste là-dedans. Par contre, j'ai reçu quand même certaines informations et pour moi aussi certains ajustements à ce que je croyais moi-même. Et puis, c'était intéressant. Alors, imagine toutes les dimensions de la création. Alors, bien sûr, j'en avais noté une douzaine, mais je vois que c'est à l'infini, d'accord. Donc, déjà, il faut s'imaginer un ruban multidimensionnel qui traverse toutes les dimensions et qui collecte, on va dire. Alors, on dit souvent, moi j'ai appelé ça les mémoires universelles, parce que déjà, c'était peut-être un peu moins teinté par tout ce qui a été dit, pas dit, avec aussi les exigences des fois qu'on a, oui, mais n'importe qui peut pas y aller. Enfin, tu vois, on a beaucoup ce genre de discussion. Moi, je voyais vraiment ce ruban, parce que en voyage, on va dire, avec mes guides, ils me montrent certaines choses et puis ils essayent de m'expliquer comment ça fonctionne. Mais c'est pas toujours facile d'intégrer à l'intérieur de soi des choses qui peuvent avoir 10, 11, 12 dimensions, tu vois. Déjà, à 5 ou 6, notre cerveau, il verrouille un peu. Alors, à 10 ou 11, on peut que l'expliquer théoriquement, on peut en faire l'expérience, mais de le dessiner et de l'expliquer d'une manière des plus justes reste difficile. Maintenant, j'aime bien, moi, le côté dessin animé ou film, des fois, qui nous aide à comprendre. On imagine un ruban multidimensionnel, d'accord? Un peu comme on avait vu dans Interstellar, tu vois, quand il y avait ces croisements, c'est vraiment comme ça. Alors, c'est pas comme des cordes comme ça, mais dans l'idée. Et c'est infini tellement ça va en profondeur. Dans ton premier voyage, quand tu vas, on va dire, selon les dimensions, parce que ça change en somme, le ruban va avoir une infinité de dimensions à l'intérieur des dimensions, de profondeur, mais reliées à cette dimension. Donc, si c'est par exemple au niveau, on va déjà prendre de l'univers, de la matière, c'est déjà pas mal, parce qu'il y en a en plus plusieurs, donc ça vient vite très grand et très complexe. On imagine, d'accord, je peux avoir accès à la mémoire vivante. C'est pas une mémoire qui est morte, d'accord. C'est pas un enregistreur qui enregistre quelque chose qui est figé, puisque toutes les réalités existent en même temps et changent tout le temps. Donc, l'idée du passé, du présent, du futur, on peut l'oublier. C'est une question vibratoire, donc ça devient complexe, parce que ça veut dire que c'est tout le temps en mouvement. C'est pas une bibliothèque, des fois, comme on l'entend, et puis c'est un livre, c'est figé, c'est écrit comme ça. Le problème, c'est qu'on se rappelle pas de toutes ces réalités en même temps. C'est trop vaste, d'accord? Mais on peut, d'abord, dans la première couche, il va avoir mon environnement immédiat et mes expériences immédiates dans la matière, ok? Vie sur Terre, avec mes parents, une émission avec Xavier, c'est proche, d'accord? On est dans la matière, on est encore... Et tout ce qui nous relie comme... Dedans, il y a toutes les mémoires déjà de ce qu'on a vécu ensemble, d'accord? Nouveau, hein, je mets quand même les notions de passé, présent, futur, c'est plus simple à comprendre, mais à un moment donné, vous verrez, vous pourrez les enlever. Et qui fait qu'on se revoit aujourd'hui d'une certaine manière. Donc, ton âme, ta conscience divine, comme la mienne, peut en même temps être maintenant dans les annales akashiques, d'accord, ou dans ces mémoires universelles, pour rechercher de l'info de notre expérience, mais aussi des enseignements, peut-être qu'on a, comment dire, les contacts qu'on a eus, les enseignements. Donc, c'est comme si dans cette mémoire, il y avait ça, plus notre côté multidimensionnel avec toutes les facettes, mais plus aussi toutes les expériences qu'on a eues de près ou de loin. Donc, c'est déjà énorme. Mais il n'y a pas besoin de faire un tel effort, puisque notre âme a une capacité, dans l'instant, en somme, de changer de vibration et d'aller dans ses mémoires. Maintenant, on peut dire, tiens, je peux aller plus profondément à l'intérieur. Et tout d'un coup, ça peut nous ramener à des souvenirs anciens. Admettons qu'on a été ensemble à Rome sur un cheval, toi tout d'un coup je vois des images, on avait des plumes comme ça, donc on devait être gradé même plus haut que Centurion, parce que ce genre de plume me rappelle quelque chose. Donc, ces choses, c'est des souvenirs déjà plus lointains. Maintenant, on peut aller encore plus lointain. On peut imaginer, allez, soyons fous, parce que notre âme, en somme, on va dire, quand elle s'incarne, c'est presque comme si c'était ses sous-personnalités, hein. On parle souvent de l'être humain avec ses sous-personnalités. Si on enlève la notion de temps, l'âme aussi, mais l'âme a aussi des manifestations dans d'autres endroits de l'univers. Donc, ça mène loin. Donc, imagine qu'on se connaît en tant qu'extraterrestre, allez, sur la troisième planète de Sirius B, très précisément. Donc, je peux, si tu veux, je peux, en même temps que toi, visiter ce qu'on vit déjà ensemble ou ce qu'on a vécu, entre guillemets, si on prend la notion de temps. Donc, du coup, dans les discussions qu'on va avoir, sans faire attention, sans en être conscient, tout d'un coup, tu poses une question, ah oui, et puis qu'est-ce que tu penses de l'existence extraterrestre? Mais en sachant très bien que ça va stimuler quelque chose en nous, où on va amener de l'information. Alors, la difficulté, par contre, c'est que quand tu ramènes l'information, ça traverse aussi tes filtres. Et je fais vraiment partie des gens, je pense, il faut arrêter de penser qu'on est dans le 100% parce qu'on a fait un voyage et qu'on amène l'information sur Terre. Elle est tout le temps filtrée par mes peurs, par mes doutes, par mes blessures, par mes croyances, d'accord, qui vont faire que c'est filtré. Il y a moyen un peu de défiltrer, c'est-à-dire il faut oser aller loin, c'est-à-dire être capable de se dire, OK, j'ai des filtres. Est-ce que cette croyance-là m'arrange juste parce que c'est comme ça, comme ça, comme ça, d'accord? Donc on pourrait améliorer ça. Et puis bien sûr, plus tu es centré, plus tes émotions sont fluides, etc., etc., va faire que les filtres sont de moins en moins épais. Mais il faut pas se leurrer, hein. À l'état où nous sommes tous, même après avoir fait un cheminement, on a encore des filtres, on a encore beaucoup de filtres. Donc je pense qu'il faut un peu peut-être tempérer ça. Donc tu vois, ça laisse une possibilité incroyable. Et là, si on ramène encore d'autres personnes dans une salle, ça peut aller à l'infini dans ces coupes et tout ça et ça. Et on y a accès tout le temps. Maintenant, on peut faire un peu de méditation, de transe, pour essayer d'avoir accès plus consciemment aux choses. Mais notre nature même nous permet tout à fait d'aller, si on peut dire ça, aller là-bas. Non, on change de fréquence et on se retrouve à l'intérieur des annales akashiques. D'accord? C'est pas un déplacement. C'est un changement vibratoire d'une parcelle de notre âme qui va permettre d'être comme un grand voyageur à travers ces dimensions et de nous amener l'information, voire d'autres dimensions aussi, hein, septième dimension, dixième, onzième, etc., etc.
C'est hyper intéressant et à la fois vertigineux,
C'est
effectivement.
vertigineux, ouais.
Tu l'as dit au début, moi quand je me suis intéressé pour la première fois à ce sujet-là, j'ai me suis confronté à beaucoup de croyances autour des annales akashiques ou des archives akashiques, et notamment le côté pour y accéder, il faut avoir une sorte de statut spécial. Ou pour y accéder, il faut avoir des prières, faut être un initié, faut être. Enfin, tu vois,
Oui,
ça faisait un peu le club des
les élus,
le
quoi.
club des gens qui peuvent, des élus qui peuvent, et puis les autres, la grande masse qui doit simplement recevoir les enseignements de ces élus. Aujourd'hui, c'est plus du tout ma vision. J'ai l'impression que tout ça, c'est très folklorique. Est-ce que ça correspond à ta vision des choses?
Oui, alors absolument. Je pense aussi, c'est pour ça qu'il y avait une personne, parce que j'ai parlé peu souvent de ce sujet. Je l'avais fait parce que quelqu'un m'avait dit que tu connais aussi d'ailleurs, qui s'appelle Didier Santiago. Il m'a dit, allez, vas-y. Moi, je l'ai fait. Et puis je voyais qu'il y avait un bel écho et tout d'un coup, une personne, oui, mais alors, monsieur, on vous connaît, on vous aime bien, mais alors, parlez des choses que vous connaissez parce que quand même, je voyais. Déjà, j'ai dit, mais déjà, je ne vends pas de stage là-dessus, rien du tout. Donc, je ne m'estime pas être un grand spécialiste. Par contre, je suis un penseur libre. Donc, dans les choses que j'ai envie de partager aux gens et qui me semblent bien, voilà, que je porte dans mon cœur, j'avais envie. Et là, je voyais que j'étais atterri justement dans l'idée que c'est un royaume que je prends ou de la place que je prends sur quelqu'un. Et surtout, il faut pas se leurrer. Si je te dis qu'il faut être un initié de je sais pas combien de niveaux pour aller là-dedans, qu'il faut faire attention, ça veut dire que je peux aussi te vendre de plus longues formations que, en somme, j'ai du pouvoir sur toi. Si je te dis que naturellement, comme la respiration, tu peux y aller, à la rigueur, je peux t'entraîner, je peux te donner la main à y aller toi-même et te montrer qu'en somme, c'est pas complexe. Bah, ça veut dire peut-être, allez, tu vas faire un stage, deux stages avec moi, et puis après, tu auras compris, tu auras ta propre méthode, tu vois. Donc, on se rend pas compte combien, mais des fois pas exprès, hein, on fait pas exprès, on prend du pouvoir sur des gens, qu'ils soient d'intérêt purement prendre du pouvoir, qu'ils soient avec l'argent aussi, et le fait que c'est pas agréable de se rendre compte que tout d'un coup, les gens... Bah, toi, tu auras peut-être mis 10 ans avant de comprendre ça, et puis d'autres, en 2 semaines, ils feront mieux que toi. Et c'est la vie comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Moi, vraiment, dans ça, j'ai plutôt envie, ma motivation, c'est de montrer quand même, il y a ce qu'on appelle méthode technique, d'accord, qui sont louables, mais il y a un état naturel, un fonctionnement naturel qu'on a qui fait que on est naturellement channel, médium, et qu'on est naturellement capable, et on le fait tous les jours. Tous les jours, même quand tu n'es pas conscient, tu voyages dans ces endroits-là, si on veut bien, parce que voyage sous-entend pas non plus un déplacement en distance, mais simplement au niveau vibratoire, tu es là, on parle ensemble, et puis on est déjà en train de chercher des informations de l'autre côté, et tout d'un coup, on les a ici, tu vois, en même temps qu'on parle. Et je trouve ça, ça n'empêche pas après d'être un professeur et de pouvoir enseigner des belles choses, mais on aura une nature moins belliqueuse. C'est-à-dire, parce que soi-même, on n'est pas suffisamment centré sur un... Moi, j'allais sur notre trône, hein, debout. Donc, on a le sentiment de prendre du pouvoir sur les autres pour se sentir dans cette souveraineté. Et en réalité, non. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse suivre quelqu'un parce qu'on aime bien ce qu'il enseigne. Mais l'idée, c'est de rendre autonomes les gens et de montrer qu'eux-mêmes, ils ont les mêmes capacités que toi. Et parfois qu'ils y arrivent d'ailleurs, je vois, plus rapidement que toi. Et c'est comme ça.
Donc, si je comprends bien, en fait, ce qui te sépare d'un individu lambda, entre guillemets, qui n'est pas forcément spirituellement intéressé ou, disons, éveillé, même si c'est un peu péjoratif, c'est simplement le fait d'être conscient d'accéder à ces informations et la compréhension de ce à quoi tu peux accéder. Mais en fait, tout le monde accède presque inconsciemment à ces informations et dans notre quotidien, en fait, on va y accéder, on va canaliser, on va simplement, on n'en est pas conscient, en fait, tout simplement.
Oui, moi, je dirais, c'est même pas ça qui nous différencie parce qu'en réalité, sur d'autres parties, je vois qu'il y a des gens peut-être qui ne sont pas encore dans la démarche, mais qui sont d'excellents parents, des gens généreux. Donc, selon les facettes dans lesquelles je suis, je vais être un peu plus déployé, et puis l'autre un peu plus déployé. Mais l'idée aussi, parce que je vois beaucoup de gens qui sont conscients de pas mal de choses, qui savent beaucoup de choses, mais concrètement, dans le quotidien, dans leur comportement, dans ce qu'ils font, il n'y a rien qui a changé par rapport à avant. Ils savent plein de choses, tu vois. Donc, c'est relatif. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on soit plus conscient de nous-mêmes, de qui nous sommes à divers niveaux, de nos capacités, de réouvrir un peu tous ces canaux, et puis de donner la main aux gens aussi pour qu'eux-mêmes entrent dans leur souveraineté, dans leur potentiel, et qu'ils voient qu'ils sont des êtres en somme merveilleux. Et donc, on aura moins besoin de partir en guerre. Mais ce serait facile à faire. Techniquement, c'est pas compliqué. C'est qu'on a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de choses à lâcher, qu'on n'arrive pas, et... Ouais, on est des super résistants aux maladies, il faut reconnaître quand même, tu vois.
Mais c'est presque un peu ça l'expérience aussi, quand on vient s'incarner sur cette terre, de se mettre sur le dos toutes ces résistances, ces peurs, ces blocages, c'est tout ça, et puis d'arriver à les dépasser quelque part, chacun à sa manière, quoi.
Tout à fait, et puis on a vraiment, je vois, une voie unique, donc on a appris souvent à nous comparer, à être un peu, très compétitif, tu vois. Et puis en réalité, on a un chemin tellement différent que même si tu voudrais comparer, ça joue pas parce que nos yeux, on nous montre des buts à atteindre et puis ça c'est gagné, ça c'est le challenge. Mais le problème, c'est que ça montre pas réellement ce qu'on a besoin vers là où on va aller, parce que voilà, moi je suis peut-être un conférencier comme ça, et puis l'autre est un conférencier d'une autre couleur, et ça va répondre à des gens, et puis de l'autre côté, ça va répondre à d'autres gens. Mais on compare, on dit, ah, il est plus ci, plus ça, et moi, je sais mieux, et celui-ci. Et ça n'arrête pas, hein. On a été éduqués comme ça, et ça, avec les annales akashiques ou les mémoires universelles, ça ne change pas. Je vois, c'est, je trouve, encore un domaine où il y a beaucoup, hein, ce genre d'exigence ou de choses. Dans d'autres, ça a plus lâché, je trouvais, que dans la médiumnité, par exemple. On peut quand même voir qu'il y a un courant. Moi, je voyais quand j'avais commencé, j'avais fait une des premières conférences, nous sommes tous médiums. Je voyais, ça crée des frottements. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, tu vois. Mais tout ce qui concerne encore les mémoires, les annales akashiques, c'est plus rugueux.
Ouais,
C'est encore plus rugueux.
c'est encore teinté de beaucoup de croyances,
Oui,
beaucoup
oui, oui,
de.
oui, oui, oui. Mais parce qu'il y a aussi très peu de spécialistes reconnus dans ce domaine-là. À un moment donné où les gens pourront s'avancer un peu plus, à un moment donné, on va lâcher. Ça n'enlève rien à ce que les gens ont fait, donné comme cours, comme stage, d'accord? Ça peut être très bon, très efficace. La personne a un savoir qui est juste incroyable. C'est juste des fois, nos blessures nous font faire des choses. C'est comme dire, attention, c'est dangereux, c'est dangereux. Quand on inculque les gens, c'est dangereux, on peut être pris, et puis après, tu vas être bloqué dans le bas astral. Enfin, tu vois, vraiment, je veux dire, on est des fois déjà sur Terre bloqué dans le bas astral avec nos guerres, notre ignorance et tout ça. Donc, voilà, ça va pas changer grand-chose en apprenant juste un peu à voyager, tu vois.
Dans la catégorie justement de ces croyances ou de ces compréhensions par rapport aux annales, il y a là cette notion d'énergie gardienne des archives. Tu vois, moi j'imagine ça comme une sorte de guide un peu, voilà, dont la mission spécifique c'est d'être gardien. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça correspond réellement à quelque chose de est-ce que c'est pas juste une étiquette?
Alors après, chacun ses croyances, tu vois. Moi, en tout cas, dans mes expériences personnelles, il n'y a pas de gardien. La seule chose, c'est que quand toi-même, tu es dans des fréquences qui permettent, tu vois, il y a une fait d'être conscient du voyage. Donc, c'est ce que tu vas amener ici, sur Terre. C'est là où il y a la problématique. Mais ton âme, et comme comment les archives akashiques n'ont pas besoin de gardien, c'est une dimension. D'accord? Et dans laquelle on peut entrer ou pas. Mais il faut une certaine fréquence pour y entrer. Tu peux pas. Le problème, c'est que si tu as des vibrations, des fréquences qui sont trop basses, pas basses parce que c'est mauvais, mais trop basses, je peux être dans la peur et tout ça. De toute façon, déjà, je peux pas y entrer. D'accord? Tout simplement. Donc, le gardien, c'est même toi-même parce que ça vibre à des fréquences où nos âmes ou nos consciences divines peuvent y aller. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, on peut imaginer que des êtres très évolués qui maîtrisent certains voyages astraux, ils peuvent à la rigueur pomper des informations depuis l'extérieur. Mais moi, j'aime pas aller dans trop de ces choses-là. En tout cas, pas dans ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que de toute façon, l'essentiel, c'est de savoir qu'on peut amener l'information. Et encore, c'est vivant. Faut pas oublier, dès qu'on y est dedans, c'est comme si tu étais dans cette situation-là, un observateur, tu vois, intemporel qui observe quelque chose. Donc tu peux collecter les informations de quelque chose qui est toujours tu vois, en mouvement. C'est pas un livre que tu ouvres poussiéreux et où tu lis, tu vois. C'est que tu es transporté dans cette expérience et je trouve ça extraordinaire, tu vois.
Mais ce qui est vertigineux du coup, c'est de s'imaginer que comme c'est effectivement, alors on enlève la notion de bibliothèque parce que bibliothèque, ça semble quelque chose de figé. C'est quelque chose de justement de non figé. Et on se dit, bah ces informations, elles contiennent donc il y a toutes ces lignes du temps qui s'offrent à moi. Chaque seconde, j'émets des pensées, j'émets des intentions, j'ai des émotions. Tout ça fait voyager d'une ligne de temps à une autre. Et en fait, dans cette immensité de possibles, tout est quelque part accessible, j'imagine. Donc ça doit représenter une quantité d'informations qui est, enfin, intellectuellement, c'est impossible de se le représenter.
Absolument, mais c'est pour ça qu'on peut pas les mettre dans notre tête, ni imaginer ça. Puis en plus, tu vois, même, bien sûr, nous on parle de ligne temporelle, mais il faut pas oublier que pour l'âme, le temps n'existant pas. Donc, ce qui est fou, Même si on voudrait rire un petit peu, on se dit, tiens, imagine-toi un ruban avec à l'intérieur des couches à l'infini en profondeur et qui traverse toutes les dimensions. Donc c'est juste déjà là. Après, tu dis, bon, en même temps, comme il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps à ce niveau-là, d'accord? Ça pourrait très bien tenir dans un grain de sable aussi. Et c'est ça qui fait que, à un moment donné, on perd la raison. On dit, c'est si immense et en même temps, c'est dans un grain de sable que ça pourrait tenir aussi. D'accord? Puisque, donc, et aussi le déplacement à l'intérieur, moi, j'aime bien, des fois, le montrer comme une sphère, d'accord? C'est pas le cas non plus, parce qu'une sphère telle qu'on la conçoit, et là, trois, quatre dimensions, on va dire, si on prend la notion d'espace et de temps, mais pas plus. Donc, il faudrait une autre forme. Mais bon, j'imagine une sphère qui fait 10 km de diamètre, ce qui est grand, et puis un grain de sable, d'accord? C'est ton expérience avec moi aujourd'hui. Et d'une fraction de seconde, dans la pensée, hop, tu te retrouves là. Mais quand tu es là-dedans, d'accord, le grain de sable devient un univers entier avec des possibles et des machins où tu es dedans, avec nous qui parlons, toi qui parles d'une autre vie où on se rend. Alors, bien sûr, à la fois, ça peut être effrayant pour nous, mais dès le moment que tu es là-dedans, je sens plutôt un côté jouissif. C'est de l'intelligence pure à l'œuvre et tu te baignes dans tous les possibles et réalités et qui sont là et qui changent. D'accord? Et ça aussi, ça fait peur, hein, je crois. Comment est-ce qu'il s'appelle? Guillaume, il s'appelle le scientifique qui parlait du
Ah
futur,
oui,
du
Philippe Guillemin,
passé.
oui.
Et bien sûr, il y a des notions qui dépassent allègrement hein, et qu'on a besoin de comprendre là-dedans aussi, qui sont intéressantes. Nous, on a l'impression que le passé est figé, hein, comme on dit souvent cette phrase, le passé c'est passé, le présent c'est ça, et puis le futur n'est pas encore. Mais c'est parce qu'on a des notions de temps qu'on pense ça. Mais on peut s'imaginer que le passé, il est sans cesse réinventé avec d'autres lignes du temps, d'autres expériences à l'infini. Donc déjà, on est effrayé, tout en faisant que toutes ces lignes ont déjà créé des futurs. Donc c'est pas ça, c'est si on voit la notion passé, présent, futur, on est encore dans le temps. Même quand on dit l'instant présent, on est coincé, on sent entre le passé et le futur, au lieu de dire c'est l'espace sans temps. Et donc, le dit passé, le dit avenir, le dit présent fait partie de ça dans l'instant. Et ça, c'est difficilement compréhensible, mais je crois que certains chercheurs, dans le domaine quantique, justement, nous montre ces milliards d'instants présents, si on peut les appeler comme ça. Et donc, c'est une question vibratoire. Donc, on revient à la mémoire universelle. Ma pensée peut m'amener dans un instant T, dans une réalité T, mais sans aucune limite au niveau de l'âme. Tu vois, ton âme va pas être ni arrêtée, elle n'est pas en souffrance, elle ne peut pas être comme ça, l'âme en elle-même, d'accord? Ça, c'est nous, avec nos facettes ici sur Terre. Mais notre âme vit dans l'amour inconditionnel, donc elle a elle est illimitée à ce niveau-là, et donc les mémoires universelles, il n'y a pas de limite non plus. À la rigueur, on pourrait s'entraîner, tu vas dire, tiens, mais allez, moi j'ai envie d'aller dans la 12e dimension, qu'est-ce que je vais récupérer? Qu'est-ce que j'écris? Et puis tu vas bien écrire ce qui te revient, bien sûr, dans la limite de ce que tu crois. Tu vois, il y a des choses, je vois, le guide m'avait dit un jour, il faut que tu puisses voyager au fin bord de ta galaxie intérieure, au bord extérieur de ta galaxie intérieure. Et là, si tu te mets dans cette phase-là souple, tu verras, on peut comment dire, te transmettre des enseignements nouveaux, mais qui vont faire que le reste s'écroule. Dont, en réalité, la vision des pensées négatives. J'ai dit à un moment donné, je voyais ça pointer. Et là, je ne peux pas dire ça. Mais dis, tu vas mettre l'explication avec. Même si c'est compréhensible qu'on parle de pensées négatives, le problème, c'est ce qu'on en fait qui joue pas. C'est le vouloir les éliminer, penser que ça n'existera plus et que c'est ça qui fait notre malheur. Donc, ils m'ont amené sur une piste que je ne pensais pas du tout, en me disant, mais regarde, c'est juste l'expression, c'est une dimension de toi qui s'exprime. Donc, elle t'informe d'une souffrance à l'intérieur de toi plus profonde, qui est une pensée comme ça. Mais le mental, il est neutre. Dans ce sens-là, il est neutre. C'est pas le méchant diable qu'on veut peindre sur la muraille, qu'il faut plus utiliser tellement c'est mauvais, et à l'origine de nos souffrances. Donc, du coup, tout s'explique, mais il a fallu que j'aille quand je commençais à voir ce truc, j'avais le haut là au cœur. J'ai dit non, non, tu peux pas dire ça. Les gens, ils vont te ramasser là-dessus parce qu'en plus, tu vois, c'est comme, ben oui, si je dis, oh, ouais, la Terre, c'est de la merde, c'est une pensée négative. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière qui ne joue plus, tu vois. Et voilà, donc dans les annales akashiques, tu as beaucoup d'informations de ce type-là. Il y a ce que les guides t'enseignent, les guides peuvent venir avec toi là-dedans parce que, en somme, c'est comme des hologrammes multidimensionnels dans toutes les réalités, dans toutes les expériences qui vont te permettre d'apprendre aussi de, tu vois, de ce qui se passe et de ce que tu vis.
On comprend à travers tout ce que tu nous dis que quelque part, il y a aussi ce qui se joue dans cette réalité incarnée, dans notre conscience incarnée, c'est l'acceptation du fait que toute cette réalité invisible, elle est quand même difficilement perceptible. On accepte de jouer dans cette pièce de théâtre, et cette pièce de théâtre, elle fait que, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas comprendre tout ça. Est-ce que, par contre, et c'est là ma question, le jour où moi, par exemple, je quitte cette expérience, j'en viens à mourir, le plan de conscience de ma conscience désincarnée, pour le coup, cette fois-ci, va me permettre de comprendre, d'avoir la totalité de la compréhension, ou est-ce que quelque part tout ça sera très relatif à chaque personne et à chaque niveau de conscience?
Sur Terre, tu vas abandonner juste ton corps, d'accord, et tout le reste va suivre, sauf ce qui est trop lourd pour aller dans l'autre dimension, d'accord? C'est comme, je vais le montrer comme ça, mais bon, les gens pourront pas voir. On imagine un soleil, d'accord, et puis que un vaisseau rejoint un nouveau, d'accord? C'est la conscience divine qui, elle, a fait le voyage sur Terre, d'accord? Cette conscience divine qu'on nomme aussi l'esprit, qui est en somme un petit bout d'âme, mais qui est absolument, moi j'appelais ça un hologramme extrêmement sophistiqué de notre âme, mais adapté au voyage dans la matière, adapté aux tempêtes émotionnelles, aux pensées lourdes, d'accord? Et puis à notre expérience terrestre. Donc on va dire que cette partie-là va rejoindre nouveau, comment dire? Notre âme, hein, dans l'autre dimension. Mais du coup, même, le problème, c'est qu'on a le côté naissance, mort, naissance, vie, mort, d'accord? Donc déjà là-dedans, il faut réinterpréter parce que c'est pas tout à fait comme ça, puisque c'est juste une projection de mon âme avec ma conscience divine, d'accord? Dans ce plan-là, qui va utiliser ce corps. Mais ce n'est pas seulement le cas, c'est cette idée-là aussi. C'est que mon âme crée tout ce qui existe là, sur Terre, comme la tienne aussi, les arbres et tout ça. Donc, je choisis simplement un instant T de me dire, OK, je me projette dans ce corps-là pour faire telle et telle expérience. C'est-à-dire, on ne va pas attendre notre mort pour voir ce qui se passe. On va ajuster à chaque instant. Simplement, au moment donné, la conscience divine, on enlève un aspect de la conscience de ce monde-là, d'accord? Donc c'est un peu différent. C'est pas, il y a le bilan final, il y a celui du début et de la fin. Non, c'est tout le temps. À l'heure actuelle, on discute avec nos âmes, on se dit bon, ok, ça c'est super là, j'ai de la peine à comprendre ça, à vivre cette expérience, d'accord? Et on va regarder ensemble. Donc du coup, c'est pas à la fin où il y a le tribunal où tu vois le truc qui se dit bon, bien sûr qu'il y a quelque chose qui va se faire après. Et puis après, c'est selon tes croyances. Et c'est ça aussi où c'est fou. C'est dans ces derniers jours, j'ai dit c'est fou comme l'autre monde, plus tu évolues et tu ouvres, il change aussi. C'est-à-dire que ta perception que tu en ramènes qu'à la fin de la vie, puisque c'est de la fin, il y a un briefing, tu es là, d'accord? Après, si tu ouvres qu'il est là tout le temps, tu dis, mais il y a tout le temps des briefings ensemble, des rencontres qu'on fait avec nos guides, notre âme, voir les gens avec qui on est, tu vois? Et ça rend la chose très différente parce que, voilà, et même jusqu'à penser, parce qu'on a toujours l'idée que la matière est finie. D'accord, mais si je regarde, mon corps lui-même ne meurt pas. Si tu regardes bien, il change de fonction, d'état. Mais il continue à vivre dans la poussière, ou il retourne dans la terre. Donc du coup, voilà, où il retourne un moment dans 1 milliard d'années, il retournera au sein d'une étoile, mon corps, tu vois. Donc du coup, même ça, c'est... D'ailleurs, certains scientifiques sont en train de dire, oui, mais on pense que la matière est finie, mais peut-être on n'en sait rien, en somme. C'est pas une certitude qu'on a, puisqu'on voit bien, on a de la peine de voir le début, et on a de la peine à voir la fin. On peut imaginer qu'une étoile meurt, mais parce que c'est une interprétation qu'on a, d'accord, d'un phénomène, c'est-à-dire du changement. On se dit, tiens, cette étoile meurt, mais nous, on a dit qu'elle meurt. Non, elle change d'état, comme nous, on change d'état. Mais on pourrait très bien dire, on peut enlever la notion du temps, on change juste d'état. Au niveau vibratoire, qui donne que le soleil, à un moment donné, est rouge, qu'on ait les cheveux blancs, et puis on a notre ego qui crée. Lui, il est prisonnier de notion du temps, donc forcément, dans nos gènes, on a un programme qui dit vieilli. Mais c'est un programme qu'on pourrait imaginer sans l'ego distordu qu'on a sur notre planète, où on peut être totalement libre, recréer notre cellule, l'âge qu'on veut, le sexe qu'on veut, partir. Tu vois, je suis sûr que dans quelque part dans l'univers, il y a des êtres à ce point-là déjà.
Justement, tu parlais du coup de cet ego incarné, et c'est souvent délicat de discerner ce qui est de l'ordre de l'ego, de ce qui est de l'ordre de qui on est véritablement. Et pour ça, on entend souvent dire que nos émotions, ce qu'on ressent au quotidien, c'est le langage véritable de l'âme. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là, toi?
Mais on pourrait, là, nous, je vais essayer de dire la réalité multiple, d'accord? Puisque tout est à l'intérieur de nous, de notre âme, d'accord? La création, donc forcément, l'ego, même avec les états d'âme, est aussi, à quelque part, une expérience de ton âme. Après, on peut faire une distinction, mais sans séparer, d'accord? Mon âme vit dans l'amour inconditionnel comme ma conscience divine. Donc, elle est toujours dans une joie, une extase permanente. Okay? Après, elle a décidé à travers l'expérience terrestre. Bon, après, je ne vais pas expliquer tout l'ego parce que c'est un peu complexe. J'avais vraiment pris le temps de bien l'expliquer. C'est complexe et simple à comprendre en même temps, mais une chose est sûre, c'est qu'il nous amène à vivre des expériences aussi avec d'autres émotions. D'accord? Mais l'un dans l'autre, de toute façon, tout ce que vous faites comme expérience, c'est vous le créateur. Donc à partir de là, on ne peut pas non plus dissocier avec l'âme, pas l'âme. Tu vois, je dirais que, quoi qu'on en dise, maintenant, avec l'ego, c'est peut-être important de voir. Ce n'est pas, pas souvent on a cette idée que c'est quand on est un peu prétentieux, que c'est ça l'ego. Non. L'ego, on l'a programmé pour qu'il nous protège de tout, c'est-à-dire de la vie. Donc, il va protéger. Par contre, il ne regarde pas ce que ça a comme conséquence, que ça va te rendre malade, malheureux, au bord de la mort. Non, tu es protégé, ok? Tu es timide, je vais faire le nécessaire pour toi pour que jamais plus tu fasses de conférence. Donc, on ne va pas se rendre compte de tout ce qui est mis en place pour saboter cet événement de faire des conférences et de dire. Et puis quand, d'ailleurs, tu y arrives au départ, tu sens bien qu'il y a comme un truc qui te tire en bas. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'ego réagit. Il réagit, voilà. Et donc, on va apprendre à le spiritualiser, à le pacifier, à l'aimer. Et parfois même aussi à hausser la voix, comme un personnage qui est toujours, tu vois, un peu vindicatif. Il veut te protéger malgré toi. À un moment donné, dire, mais écoute, j'ai fait 100 conférences, ça va. J'ai pas été brûlé sur le bûcher, je suis pas mort. J'ai pas été rejeté par la terre entière, tu vois. Tu as tort. D'accord? À un moment donné. Mais après, c'est vrai que, moi, j'aime bien cette idée parce que c'est vrai qu'il y a plein de philosophies en ce moment. Alors, chacun prend un peu la sienne. Moi, j'aime bien celle-là où j'ai envie d'embrasser tout. C'est-à-dire, j'ai pas envie de dire oui, mais tu sais, tu n'es pas tes pensées négatives, tu n'es pas tout ça, tu n'es pas tout ça. Moi, j'ai envie de dire, je suis aussi ces pensées négatives. Oui. Et j'ai envie d'être cet être humain sans devoir dire, ah oui, tu vois, c'est comme presque une guerre contre la moindre pensée négative, ou dire, tiens, parce que j'ai l'impression que je me renie. Maintenant, de dire, je ne suis pas que mes pensées négatives, je ne suis pas que ça, puisque je suis aussi d'autres pensées, tu vois, ça, je préfère que de prendre le drapeau et de dire non, pas souvent dire oui, l'infamie de votre personnalité, j'entends des mots très durs, que c'est un méandre de merde carrément. Je me dis, mais j'ai pas une impression que je m'aime quand je suis comme ça. En tout cas, pas mon humanité. Donc je me dis, on n'est pas sorti de l'auberge parce que je dirais que, est-ce que c'est pas un peu le but aussi d'être attendri quand des fois je dis, tiens, je me vois jaloux, compétitif, quand j'ai envie de ce que l'autre a et puis que je l'ai pas, eh ben, je l'affirme ici, j'ai plein de ces pensées comme ça, où des fois je suis insatisfait, ou je pleure, ou j'ai envie d'être, de jalouser l'autre. Et puis, j'ai envie que de m'aimer comme ça, parce que je me dis, bon, écoute, tu es un être humain, tu es en chemin, tu expérimentes, et tu vois bien que quand il y a des souffrances, on devient méchant, on devient orgueilleux, et que j'ai envie de m'aimer aussi comme ça. Idem, d'ailleurs, dans l'autre côté, où on a beaucoup de peine aussi, parce que ces mêmes gens, des fois, qui disent ça, bah, après, ils sont aussi très en colère si toi, tu dis, oh, bah, j'étais un conférencier merveilleux aujourd'hui. Oh! Mais quel orgueil, quel ego. Ça veut dire, alors, j'ose être quoi? Rien du tout. Ça veut dire qu'on est au milieu dans quelque chose qui est très intellectuel, une espèce de spiritualité édulcorée, où on parle bien, on sait tenir notre langage, notre voix, on sait dire des mots beaux, mais en somme, c'est comme un jeu de rôle, presque.
Ouais, c'est très
Ah
focus,
oui.
quoi.
Ouais, ça manque d'humanité drôlement, quand même. Je sais pas, à moins que je suis un cas à part, ce qui m'étonnerait beaucoup, je sais très bien que, bah, il y a des moments où ça va pas, où on se dit, mais quelle merde, cette terre, de toute façon, on n'y arrivera jamais, et j'ai envie que ça coule. Et il faudrait faire presque comme des enfants, on faut se donner ce droit-là, mais pas toute la journée, ni sur 3 ou 4 ou 5 mois. C'est que pendant 10 minutes, on critique tout à fond. Comme ça, on ose vivre ça et on passe à autre chose. Et les enfants, d'ailleurs, le font très bien.
Ouais, c'est ce que j'allais dire justement, un peu la capacité qu'ont les enfants à accepter de se faire traverser par ces émotions, et puis ils vont passer de la joie à la colère, à la tristesse, à la joie, à nouveau, et puis c'est ok, et puis et ils acceptent simplement, alors que nous, on va là, tout de suite porter un jugement en fait sur l'émotion qui nous arrive et essayer de la réprimer parce que ce jugement, bah, il est positif ou négatif. En tout cas, il y a un truc qui nous fait aussi nous sentir vulnérables quelque part.
Oui, je trouve, quand je regarde, alors bien sûr, les enfants, c'est intéressant parce qu'ils sont fluides. D'accord? Si on regarde, ils vivent tout. Il y a des fois, je rigole, je donne souvent cet exemple, faudra que j'en donne un autre, mais j'adore cet exemple. C'est que je voyais à la deuxième glace, tout d'un coup, il y avait une troisième encore. Et là, les parents disent, non, maintenant, ça suffit, d'accord? Et là, c'est les hurlements, ils se roulent par terre, ils détestent toute la planète, tu dis, c'est complètement démesuré. Mais en vivant cette frustration à fond, 5 minutes après, il est en train de jouer, il est heureux de vivre, il est en bonne santé et tout. Donc, on devrait s'en inspirer, avec quelques nuances quand même, parce qu'on peut pas faire ça devant le gendarme ou notre banquier, ou tu vois, dans la rue. Mais pourquoi pas un jour, peut-être, et puis les gens vont dire, ouais, bravo, moi aussi, je suis frustré. Tu vois, voilà, quelque chose d'honnête jusqu'au bout, parce que sinon, ça finit en grève générale, ou en guerre plutôt. Mais je vois bien ça parce que je me dis, bon, c'est normal, on a des parties comme ça, en tant qu'on est sur Terre, on a tout ça. Donc, au lieu de renier tout ça, de le mettre ailleurs et de penser, moi je voyais, pendant longtemps, parce que j'ai été beaucoup bercé dans certaines philosophies, je voulais faire des méditations, mais qui m'éloignent totalement, tu vois, de tout ce qui est négatif. Et j'y arrivais. J'étais comme une espèce de ouate. Mais quand je sortais dans la rue, ça changeait tout. Parce que le moindre petit truc qui m'énervait, ça remontait. Tu vois, parce que quelque part, je forçais l'idée d'être sans penser, ou alors de me dire que, à tout prix, de forcer, me dire c'est pas moi. Mais si on est créateur de tout, donc forcément que c'est moi aussi. Donc, l'idée de m'en séparer comme si ça n'existait pas, voilà. Maintenant, je dis pas d'être tout le temps aspiré à l'intérieur montre qu'il y a quelque chose à travailler en amont. Qui a une émotion qui fait ses pensées et qui a aussi une situation ou une facette à l'intérieur de nous précisément qui souffre. Donc on peut aller la chercher, mais sans être dans la flagellation, dire mon Dieu. Et puis on peut toujours aller s'excuser au cas où si vraiment on n'a été pas gentil, tu vois. Mais non plus pas en faisant chaque fois des scénarios très judéo-chrétiens finalement dans la culpabilité. Mon Dieu, c'était tellement terrible et tout ça. Voilà, si vous êtes dans une situation, moi je pense qu'il faut être honnête, c'est que de toute façon, quand vous avez des fois un conflit en couple, il vaut mieux voir où vous êtes bancal et voilà, et on va déjà trouver des solutions avec la conscience de qui souffre à l'intérieur de nous ou qui cherche des fois la merde aussi.
Ouais, et du coup là, pour le coup, on rejoint le sens du livre que tu viens juste de publier, en tout cas qui va paraître quand cette interview sera publiée normalement. Ça y est. Qu'est-ce qui t'a poussé dans ta logique à toi, dans ton cheminement, à aborder justement ce sujet-là, spécifiquement?
Le sujet des émotions, comme c'est quelque chose qui m'a quand même vachement perturbé, tu vois, dès l'école, j'avais tellement peur de tout. Tu vois, personne n'en parlait. À l'école, personne ne parlait des émotions. Toi, tu es dedans avec un truc que tu sais pas ce que c'est, mais qui te ronge au fur et à mesure des années. Moi, j'avais tellement peur de tout, mais à un moment donné, cette peur, ça vient à un mur de 300 mètres. Donc, tu as peur d'aller à l'école, tu as peur des notes, tu as peur, bien sûr, de tes premières amours parce que tu sais pas trop ce qui t'arrive, tu as peur des premières relations sexuelles, tu as peur des examens, bref. C'est non-stop et tu vis la boule au ventre, tu vis comme ça de plus en plus, tu vois. Alors, quand j'étais enfant, j'arrivais à le gérer jusqu'à 6-7 ans, c'était encore supportable. Mais après, très rapidement, ça m'a amené dans des états où j'avais envie de mourir. Et d'ailleurs, une des raisons de l'alcool était ça aussi, c'est que ça permettait d'anesthésier, d'oublier un moment. Et donc, je me suis dit un jour, écoute, écris quelque chose, mais il faut que ce soit le plus simple que possible, ce livre. Pour peut-être donner quelques pistes comment dire, je voulais dire donner aux gens quelques pistes pour mieux apprivoiser. D'ailleurs, j'ai changé un peu le mot. Je me suis dit gérer. On a une tendance à croire que c'est trop dans le contrôle ou maîtriser. Tu vois, les mots ne sont pas faux, mais comme ils ont été teintés de beaucoup de couleurs, je me suis dit, écoute, apprivoiser, c'est un peu comme si on avait un cheval un peu fougueux. Et voilà, il faut faire avec, mais pas le soumettre. C'est pas ça. C'est qu'on trouve un terrain d'entente qui fait que ça va être fluide, bon, et finalement. Au fur et à mesure, j'ai remarqué, mais j'ai dit, mais il n'y a pas d'émotion négative, c'est pas vrai. Chacune a sa raison d'être et on a besoin d'être fluide avec tout. Et c'est juste apprendre. Voilà, je sais que les très violentes colères, c'est pas très bon d'avoir des conflits comme ça. Donc, dès que ça dépasse un certain stade, il faudrait pouvoir arrêter, il faudrait pouvoir se défouler ailleurs, tu vois, quelque chose comme ça qui fait que ça finisse pas en drame. Ou les gens qui en viennent au moins, c'est de se dire, OK. Pour l'instant, avant de passer à l'étape, il faut que je trouve un objet ou quelque chose où frapper, comme ça, j'évite les gens. Et puis après, aller plus loin dans la démarche. Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça réactif? D'accord? Mais le fait est, c'est que l'émotion, c'est la vie. L'émotion, c'est aussi la joie de vivre. C'est aussi un moteur, moi, je trouve, essentiel au quotidien. Donc, même dans la médiumnité, j'ai dit, mais vous savez, si vous n'êtes pas fluide avec vos émotions, vous allez voir comment très vite ça se ferme, ça s'ouvre, ou on est connecté, je ne sais pas sur quoi. Donc l'émotion prend un point central et je me suis dit un jour, j'en ai tellement souffert et puis en même temps, ça m'a aussi rempli de bonheur. Tu vois, parce que quand je suis heureux, je le montre aussi. D'accord? Donc du coup, je me dis, dans les deux cas, j'ai envie d'écrire quelque chose. Voilà, et puis si possible, simple, parce que je me dis, j'ai lu des fois des livres, et c'est digne de scientifique. Hein, du coup, après, tu dis, bon, d'accord, je croyais m'en sortir un peu, mais là, je suis sûr. Tu vois, c'est trop compliqué. Non pas que c'est pas intéressant, mais des fois, quand c'est quelqu'un qui a le regard scientifique, ça va parler aux gens qui sont vraiment scientifiques. Et des fois, j'ai peur, avec l'émotion, qu'on devienne à nouveau très intellectuel pour régler ce problème, tu vois.
Ben justement, c'est exactement ce que j'allais dire de ce livre, puisque il se trouve que je l'ai reçu hier, hasard de la poste, et qu'en une soirée, j'ai déjà vraiment pu parcourir, parce que c'est très simple en fait, c'est expliqué très simplement, et moi je suis très sensible à ça justement, ce qui est expliqué simplement, parce que c'est aussi l'objectif de mon podcast, d'arriver à expliquer les choses, vulgariser dans le sens expliquer simplement des choses qui peuvent parfois être inutilement complexifiées. Eh bien, je trouve que ce livre, il s'inscrit vraiment dans cette logique-là. Donc, si voilà, tu me donneras les liens vers tout ce qui permettra aux personnes intéressées par ce sujet de pouvoir se procurer cet ouvrage. Et merci par avance pour ça.
Mais je te remercie toi aussi. Et pour moi, c'était important. Bon, après, c'est vrai que le troisième sera un peu d'un autre type. Mais j'avais envie, parce qu'après, bien sûr, j'ai dit, je me disais, mais il faudrait que tu montes les références de cette époque-là, du début du siècle. Et puis, il y a énormément en psychologie, en psychiatrie, des complexes extrêmes, hein, des complexes, des concepts complexes. Voilà, lapsus. Ou à la fin, je me dis, mais mon Dieu, et un psychologue avait dit ça au début du siècle, je sais plus son nom, mais en tout cas, ça lui avait coûté cher, puisque jusqu'à aujourd'hui, C'est un découvreur il a découvert pas mal de choses, mais il avait dit, mais finalement, ça sert qu'à nous, psychologues, ces termes aussi compliqués. Et c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, on a des noms pour tout ça, mais on se déshumanise aussi, et puis on dit, ah oui, c'est une forme légère de psychométrie, enfin, tu vois, des mots extrêmement complexes, qui fait que la personne qui est là, des fois, ça nous donne un peu de valeur aussi. On dit, ah, ben, je souffre de ça, mais à part ça, tu vois, au lieu de dire, écoute, je vois que tu as une blessure de ton enfant, voilà, que tu as juste envie de tout casser, tu vois, quelque chose où la personne comprend, dire, ben voilà ce que je te conseille, tu vois, parce qu'après, c'est ça. Après, je suis pas contre, hein. Chaque livre aura sa place parce qu'il y a des gens pour lire. Moi, j'avais juste envie de cette simplicité, voilà, parce que ça me reflète aussi, parce que j'aurais aimé à l'époque, je pense, quelque chose de simple. Et que les gens me parlent aussi simplement. Toi qui me dis, ah ben ne t'inquiète pas, tu sais, moi aussi j'ai de la colère, voilà ce qu'on peut faire. Voilà, c'est simple.
C'est vrai que moi, il y a quelque chose dans ces notions très complexes qui me fait penser d'ailleurs à ce que tu as dit au tout début du podcast sur toutes les croyances autour des annales akashiques. C'est un peu cette notion de pouvoir, c'est-à-dire que ça renvoie à un pouvoir. Quand on maîtrise ces notions complexes, qu'on parle le langage complexe, quelque part, on se met en haut d'une sorte de piédestal qui nous permet d'avoir un pouvoir sur les gens qui ne comprennent pas. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très artificiel, dont l'intérêt est justement de se débarrasser pour être qui on est vraiment, c'est-à-dire tous très identiques, très, très, très similaires dans ces consciences et permettre la diffusion de toutes ces idées, en fait.
Oui, je suis d'accord avec toi vraiment dans cette vision. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant il est décédé, donc Hubert Reeves. Vraiment, j'adorais l'astronomie et c'est vrai que pendant longtemps ça a été quelque chose, tu vois, presque une science secrète et réservée à une élite de gens qui savaient penser, calculer. Et lui, il l'a amené d'une manière telle que ça devenait de la poésie, que les gens avaient envie d'en savoir plus et qu'ils ont lu, même s'ils n'étaient pas des passionnés d'astronomie, ils ont lu ces livres et qui fait que tu commences à comprendre l'univers, mais autrement. Donc, je trouvais ça génial parce que d'un coup, tu vois, c'est accessible à tout le monde et en plus, ça fait des nouveaux passionnés d'astronomie en disant, mais moi, je peux aussi, alors si je ne suis pas un spécialiste en mathématiques, en sciences appliquées.
Jean-Marie, je vais te remercier pour ce moment passé ensemble. C'était vraiment très intéressant. J'aimerais, pour clore cet épisode, que tu puisses donner un conseil ou des conseils pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui, je dirais, s'éveillent à toute cette compréhension subtile.
Ah, d'accord, c'est donc très large. Bah, déjà, oser dans votre vie, oser aller vers ce que vous aimez, oser même si vous n'aimez pas un travail ou vous êtes dans une vie que vous n'aimez pas, de pas d'être suicidaire, c'est-à-dire de faire le pas comme ça, mais se dire, OK, je vais m'oser préparer mon départ. D'accord? Et puis aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, expérimenter, n'oubliez pas. Voilà, je voyais encore hier une dame, elle a dit, mais tu sais, moi, ça m'intéresse. J'ai dit, mais pourquoi tu suis pas un cours là-dedans? Vas-y, va en Angleterre si tu as envie de communiquer avec les personnes décédées. Tu vois, fais-toi plaisir au lieu d'un voyage qui était prévu comme ça. Donc, oser aller et puis oser traverser aussi cette peur parce que les gens, des fois, autour de nous, nous jugent ou parce que des fois, on est dans des familles peu ouvertes. Rassurez-les, mais en même temps, osez faire ce qui vous fait vibrer en disant, mais tu vois, expliquez-leur que c'est ce qui vibre dans votre cœur et que c'est important. Voilà. Parce que sinon, on est malheureux après. Donc, osez vraiment, et puis croire en vous, parce que, voilà, nous sommes tous des déesses et des dieux, donc il n'y a pas de raison que vous vous mettiez dans une boîte à sardines. Parce que c'est étroit, une boîte à sardines, pour quelqu'un d'infini. Voilà.
Jean-Marie, encore une fois, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à toi.
Et évidemment, merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle, comme toujours.